Radio 1. Premier sur l'info, l'info locale.
Il est déjà 7h30, c'est l'heure de rejoindre Wallis Glaise pour le journal local. En voici les titres. Bonjour Wallis.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous. C'est aujourd'hui que débute le processus d'allègement du confinement en Polynésie. Comme annoncé lundi par l'État et le pays, les rassemblements sur la voie publique restent interdits. Les réunions familiales et entre amis restent déconseillées. Le couvre-feu est maintenu et décalé de 21h à 5h du matin afin de permettre aux restaurants et roulottes d'accueillir du public. Les bars, discothèques et clubs sportifs restent fermés. L'allègement du confinement mis en œuvre à partir d'aujourd'hui à Tahiti Morea va permettre la réouverture de la quasi-totalité des commerces et entreprises, mais cette reprise implique pour les employeurs de faire en sorte que les gestes barrières et la distanciation sociale soient effectivement appliqués par leur personnel et le public accueilli. Le gouvernement, les organismes patronaux et les CICM ont travaillé des recommandations d'organismes déclinées hier pour une dizaine de secteurs d'activité.
Et c'est le jour J, la Polynésie débute sa phase d'allègement du confinement.
C'est aujourd'hui que la Polynésie française débute son processus d'allègement du confinement. Effectivement, comme annoncé lundi par l'État et le pays, les rassemblements sur la voie publique restent interdits, les réunions privées en famille et entre amis restent déconseillées, le couvre-feu est maintenu et décalé de 21h à 5h du matin pour permettre aux restaurants roulottes d'accueillir du public, les bars, discothèques et clubs sportifs restent fermés, la circulation des personnes est de nouveau autorisée sans attestation. Sauf exception, bien sûr, la nuit, tous les commerces pourront rouvrir en respectant, bien évidemment, les gestes barrières.
Masque, organisation, désinfection, les recommandations du pays pour une reprise d'activité réussie.
Et distance entre les personnes et lavage des mains réguliers restent les fondamentaux de ces guides de bonnes pratiques formulés hier lors du point presse. Tout dépend ensuite de l'activité des entreprises. Port de gants et mise à disposition de gel hydroalcoolique pour tout contact avec le public, désinfection des terminaux de paiement, des poignées de porte et des comptoirs où passent les clients. Une question donc de santé publique, mais aussi de survie de l'économie, estime le vice-président Teva Rofritsch.
Si déjà on a ce socle commun de distance, de masque et de lavage des mains, c'est le socle de base de la reprise de l'activité et de la vie en société. Parce que malheureusement, pendant quelques mois encore, certainement, on va devoir vivre comme ça. Tant que mondialement, il n'y a pas de vaccin contre le Covid-19, il nous faudra prendre des mesures de précaution. Et si nous sommes tous clients, grand public, professionnels, toujours vigilants, on pourra envisager, on l'espère à minima dans 14 jours ou dans les 14 jours suivants, un déconfinement général à l'échelle de la Polynésie tout au moins, c'est-à-dire sans encore ouvrir nos frontières. Pour cela, il faut réussir cette première étape.
Teva Rofritsch prévient également que la Polynésie française est toujours en confinement et que les gestes barrières restent en vigueur. Mais la responsabilité est avant tout collective, comme l'éventuelle sanction. Si le virus se met à circuler à cause de la reprise économique, on repart tous en confinement, insiste le vice-président.
Les mesures barrières doivent être respectées aujourd'hui. Ensuite, chacun adapte à ses dispositions. Je ne suis pas à la place du commissaire, mais j'imagine que si un établissement dérapait au sens du respect des mesures barrières et ne respectait aucune des dispositions sanitaires, il y aura certainement des mesures administratives qui seraient formulées à son encontre. Mais j'ose espérer qu'on ne soit jamais dans cette situation. Encore une fois, si ça dérape et que le virus se met à circuler à cause de la reprise économique, on repart tous en confinement. Et là, la sanction, elle n'est pas pour un établissement, elle est pour tout le monde. À nous tous de jouer le jeu.
Côté MEDEF, où le manque de concertation du pays avait fait grincer des dents voilà quelques semaines, on se félicite désormais d'une coopération efficace avec les autorités et on salue des mesures claires, simples et adaptables, insiste son président Patrick Bagur.
C'est pas facile, ce sont des recommandations. Chaque chef d'entreprise, en fonction de son activité, va pouvoir puiser dans ses recommandations et essayer de les pratiquer de façon à l'ouverture de ses portes, ben, soit capable de faire un maximum de chiffre d'affaires en respectant les règles barrières. Ce que l'on veut, c'est que ce soit très simple, de façon à ce que ce soit vite intégré dans l'entreprise et que ça devienne des gestes réflexes. Et ce sont les gestes réflexes qui vont être opérants.
Des propos recueillis par Charlie René.
Les expulsés de l'RDO relogés.
Hier, le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, et la ministre des Solidarités et de la Famille, Isabelle Sachet, ont visité les points de chute des familles récemment délogées de la RDO. Ifara, père de famille, faisait partie de ceux qui squattaient en bord de mer à l'entrée ouest de la RDO, dont le château avait été rasé la semaine dernière. Il reconnaît qu'il va falloir s'adapter à ce nouvel environnement, mais il ne regrette pas ses anciennes conditions de vie pour autant.
Comme on a l'habitude de vivre comme avant, on n'a rien à balayer, quoi. On ne fait pas de ménage, on se lève, on va à la pêche, on revient à la maison, on mange et on se voit, on va se promener. Mais ici, c'est notre façon, c'est un autre système de vie. C'est l'utilisateur, il faut s'adapter. Parce que nous, pour les Polynésiens, on s'adapte toujours à quelque chose. On s'adapte très vite, quel que soit l'endroit où on vit. C'est une façon de vivre, quoi. Que tu sois à la mer, que tu sois sur la montagne, il faut s'adapter. L'important, c'est qu'on habite quelque chose de bien. Là où on vit, là, on est bien.
Pour subvenir à leurs besoins, des denrées alimentaires ont leur été livrées par la DFSE. De quoi repartir donc sur de bonnes bases. Ce que constate Samantha, qui avec sa famille a été relogée le lendemain de son expulsion dans un logement précaire au bord de la RDO.
Ils sont très bien, plus reposants. Et j'ai plus les idées. Je vois un peu plus les idées, un peu plus devant. Oui, ça change beaucoup. Hein. Les idées plus calmes et en voyant un peu plus devant, oui. En plus réfléchi, beaucoup de choses qui ont un projet futur.
Les bâtiments de transit qui accueillent les familles en attente d'un logement sont au nombre de 3 à Tahiti. Parmi eux, la cité Grand à Pirée, qui compte 120 logements, certains de transit, d'autres définitifs. Les durées des transits sont variables en fonction des logements qui se libéreront, mais aussi, bien évidemment, des désirs des personnes en attente d'un logement. Écoutez le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou.
Il s'agit bien de transit. Donc, ce qui veut donc dire que nous allons ensuite intégrer les familles dans nos projets de construction de logements dans les communes, par exemple. Nous avons en cours la construction de logements à la Presqu'île. Nous avons environ 50 à 60 logements disséminés sur plusieurs sites. Il y a des sites qui sont en bord de mer. Il y a peut-être des gens qui sont plus à même à vivre en bord de mer, vivre de la pêche et d'être soutenus et accompagnés dans ce sens. Donc on le fera vraiment pratiquement à la carte pour éviter simplement de mettre des gens dans des schémas et qui sont des schémas qui ne conviennent pas.
Des logements pour lesquels certains participeront au loyer en fonction de leurs revenus, comme le suggère la ministre de la Famille et des Solidarités, Isabelle Saché.
Tant qu'ils n'ont pas de travail, je ne vois pas comment ils pourraient participer. Mais bien évidemment, en tout cas très personnellement, je suis pour que chacun verse quelque chose pour dire « j'ai participé » et donc je fais comme les autres, comme je le peux, mais au moins je donne ma participation.
Des propos recueillis par Pascal Bastianaggi.
2 à 3 ans de turbulence, Air Tahiti n'est pas sûr de maintenir toutes ses lignes.
Des rapatriements d'élèves ou de touristes, quelques évacuations sanitaires et livraisons urgentes. Depuis le 22 mars et la suspension de son activité commerciale vers les îles, Air Tahiti n'est pas à l'arrêt complet, mais a stoppé toutefois l'essentiel de son activité. Plus d'un mois après le début du confinement, l'horizon de la compagnie domestique polynésienne et de ses quelques 1400 salariés loin d'être redégagé. Aujourd'hui, Air Tahiti estime qu'elle ne pourra pas supporter seule la masse salariale. Écoutez Manadete Vivi, le directeur général de la compagnie.
Le pays est très sollicité actuellement pour des aides diverses et autres, mais nous avons souhaité prioriser l'engagement des moyens de l'entreprise pour répondre à la situation actuelle que nous pensions durer sur une période relativement courte. On se rend compte aujourd'hui que après analyse, que ce n'est pas le cas, que la problématique est beaucoup plus profonde que celle qui avait été anticipée et qu'il va falloir tenir sur pas mal d'années. Et donc, progressivement, effectivement, RTT ne pourra pas supporter seul sa masse salariale.
Et les perspectives dressées par la direction n'ont pas de quoi rassurer non plus. L'activité d'Air Tahiti n'atteindrait en fin d'année que 50% du niveau de fin 2019, toujours d'après les projections de la direction. Il ne s'agit donc pas de passer à une année difficile, mais bien de se préparer à 2 ou 3 ans de turbulences.
On ne sait pas très bien dans quelles conditions la reprise aura lieu et pendant combien de temps cette situation se prolongera, en fait. Hein. Il a bien fallu, à un moment donné, réfléchir à des hypothèses de reprise d'activité. Et l'hypothèse que nous avons retenue, c'est que la compagnie se rapprocherait de son niveau d'activité de 2019, donc niveau d'activité qu'elle vient de perdre, quasiment en fin 2022, voire début 2023. L'exercice, c'est de tenir, mais pas uniquement sur l'exercice actuel, c'est-à-dire 2020, mais imaginez de pouvoir tenir 2-3 ans.
La masse salariale, un des premiers postes de dépenses pour la compagnie, sera quoi qu'il arrive touché. Manate Vivich martèle pourtant que le personnel est la principale richesse d'une compagnie. Si elle veut pouvoir en temps plus favorable rentrer en puissance, Air Tahiti salarié est réparti sur tout le territoire, mais il sera difficile de garantir le temps de travail qu'ils ont pu connaître.
Nous souhaitons conserver les liens que l'entreprise peut avoir avec ses personnels, mais nous sommes aujourd'hui clairement pas en mesure de garantir à ses personnels les temps de travail qui étaient ceux qu'ils ont pu connaître. Donc nous organisons un délestage pourcentage sur les temps de travail. En moyenne, la cible, ça va être 30% de réduction de temps de travail pour les personnels non engagés sur le front opérationnel, mais pour les personnels opérationnels, les réductions de temps de travail pourraient être beaucoup plus impactantes que ça. Dans certains cas, il y aura plus d'activité. Nous ne sommes même pas sûrs de pouvoir maintenir nos vols sur toutes les destinations que nous servons jusqu'à présent.
Des propos recueillis par Charlie René. Voilà, s'achève ce journal. Il est 7h40. Merci beaucoup de l'avoir suivi.